Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Qu'est-ce qu'elle fait?
C'est l'atelier bricolage.
Ouais.
Tu casses quoi, Emmanuel?
Je casse des pinces de homard.
C'est dire comme on est mal équipé parce qu'elle les casse avec un tire-bouchon.
Ou trop bien équipé.
Parce qu'on a déjà commencé à boire un coup, en fait.
Oui, parce que c'est quand même un dîner de fête. Un déjeuner de fête. Ouais.
Mais c'est un dîner de fête qui promet d'être un petit peu...
Mouvementé parce qu'on est plus nombreux que d'habitude, mais bon.
C'est ça.
Bon, on y va, on passe à table?
Ouais, on passe à table.
Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique.
Mange ma fille.
Avec du bon.
C'est chaud.
Présenté par Mina Sundiram et Elvira Masson.
C'est la 10e émission de show et c'est une émission un peu particulière car c'est une spéciale
Noël.
Yes. Et pour l'occasion, on vous a tous réunis car nous avions envie de passer Noël à vos côtés, tous, c'est-à-dire Emmanuel, Amandine, Nicolas et Jeffrey. À nos côtés aussi, bien sûr, Aitor Alfonso.
Chacun de vous a été en charge d'apporter quelque chose à manger ou à boire pour notre réveillon. Aux entrées, j'appelle Nicolas Véro, le roi du pâté en croûte. Tu nous as apporté quoi exactement?
La tourte de Noël. Alors la tourte de Noël, c'est volaille de Bresse, foie gras de canard, cochon du Perche et morilles. Et le tout servi avec une sauce à la morille.
Merveille.
Emmanuel Marie, aux fruits de mer, en arrivage direct de Granville. Tu sors de ton camion.
C'était chaud.
Ouais. C'était chaud, on peut le dire. C'était chaud, ouais, mais on est là.
Tu nous apportais quoi?
Homard de chaussée, araignée de chaussée, et des huîtres éprères.
Génial. Amandine Chéniaud, pour nous mettre un petit peu de vertueux et de santé, de légumes dans tout ça, qu'est-ce que tu nous as concocté?
J'ai ramené une petite salade de choux de Bruxelles râpée, huile d'olive et grenade, et des carottes rôties, teriyaki, genièvre.
Miam, miam.
Et enfin, Jeffrey Kahn, le plus vieux pâtissier de Paris. pâtissier chez Storer, la plus ancienne pâtisserie de Paris. C'est bien ça?
Ouais, merci Mina pour avoir dit à tout le monde que j'étais le plus vieux pâtissier de Paris. Donc j'ai ramené un...
Non,
t'as ramené toute la pâtisserie.
Donc, en fait, j'ai ramené une pâtisserie, donc la bûche qui s'appelle le Russe. Cette année, on est sur les 8 classiques de la pâtisserie française. Et donc le Russe, c'est dacquoise, noisette, fleur de sel avec une mousseline pralinée noisette. Un praliné noisette coulant, des amandes caramélisées.
Voilà.
Et quelques petites noisettes dessus, parsemées de fleurs de sel. Donc pour finir les fêtes en douceur.
Vous revenez tous chez moi faire la bouffe pour le 24 ou pas?
Okay.
Parce que moi, il me va ce menu. Hein.
Déjà, t'es pas venu non plus t'apporter des cookies.
Ouais,
on a déjà bien attaqué.
J'ai ramené des cookies, des éclairs, un kouglof, des pâtisseries, des babas, des tartes au citron, un peu de tout.
Bon alors, Noël, c'est pas toujours famille, je vous aime. Heureusement, Aitor Alfonso à la parade pour éviter que ça dégénère grave.
Yes.
Pourtant, ma mission n'était pas simple. Trouver 3 bouteilles à moins de 15 euros pour un repas de Noël qui plaisent à des personnages de tablé aussi divers que 1. La belle-mère snob, qui ne peut s'empêcher de vous dire que vous avez grossi. 2. Le tonton relou, aussi près de ses sous que peu avare en blague raciste. 3. Le cousin altermondialiste qui vit au rythme de la lune, face au cousin banquier qui vit au rythme de la bourse. Mais que diantre faire boire à tout ce beau monde?
Pas fastoche, t'as trouvé quoi?
Pour plaire à votre belle-mère et parce que c'est Noël, il fallait commencer par une bulle. Or, à moins de 15 euros, on oublie le champagne. Pas dans le budget. Mais on va redécouvrir le crément, belle-maman. Évidemment,
ouais,
elle va faire la moue, belle-maman, en vous rappelant que c'est pas du vrai champagne.
Ça, c'est sûr.
C'est sûr, c'est pas gagné. Il va falloir la déconstruire, belle-maman, pour lui faire avaler ça. Mais nous, on est carrément crément.
Ah, c'est un crément, mais un crément de quoi? De Bourgogne?
Non, c'est un crément de Loire, ici, celui de Cyril Sevin, près de Blois.
Ouais.
Une bulle fine, espiègle, papillonnante.
C'est
ça va, ouais, très espiègle, et ça va drôlement bien avec les huîtres, hein. Sa petite salinité, son joli côté vineux lui donne du caractère. D'ailleurs, auprès de belle-maman, c'est aussi l'occasion de briller, en lui rappelant que le mot crément désignait au départ un champagne à la mousse plus légère, dite crémeuse. Oh. Et ouais, et qu'on surnommait ces pifs effervescents vin du diable ou saut de bouchon. On voit pourquoi. Sachez que c'est la deuxième cause d'éborgnement en France après les flashballs.
Quoi, les bouchons de crémant ou ouais. Les bouchons tout court?
Les bouchons de pétillant. Et belle maman oui. De renchérir un peu pompette qu'il faudrait équiper les CRS de bouteilles de crémant pendant les manifs. C'est consternant, belle maman. Consternant. En revanche, il vous a bien plu, manifestement, ce faux champagne.
Moi, il me plaît beaucoup. Il coûte combien?
Seulement 15 euros à la cave de Belleville.
Il a bien fait ses devoirs. Hein.
Ouais, beaucoup moins cher que beaucoup de mauvais champagne chimique de supermarché. Bon.
On trinque avec la belle-mère?
Yes, à la belle-mère.
J'ai frais.
Cheers.
À ta belle-mère.
Cheers. À ma belle-mère.
Et franchement, c'est pas mal. Hein.
T'en penses quoi, Amandine?
Ouais, ça passe. Hein.
Ça passe.
Ouais. Pour un crachement,
ça passe.
Non, franchement, sympa. J'aime bien l'idée des CRS armés de bouteilles de crémant. Tout à fait de circonstance.
Nicolas, t'en penses quoi?
Au top. Moi, je pense qu'avec la tourte, on est bien. Hein.
Ah ouais.
Alors Nicolas, tu es venu, comme on vient de le dire, avec ta fameuse tourte de Noël. C'est une recette familiale?
C'est une recette familiale, mais c'est une recette qui n'est pas si ancienne que ça. C'est une recette qui a 4-5 ans et qu'on fait évoluer un tout petit peu tous les ans. L'année dernière, par exemple, on avait de la truffe des Alpes d'Haute-Provence, mais la truffe à Noël, si ce n'est flatter le client, bah ça a pas grand goût. Ça a pas énormément de goût, alors que
parce que c'est trop tôt dans la saison?
Tôt dans la saison. La truffe, elle est au top de son goût. Elle est 3 semaines plus tard. Donc là, on a pris de la morille parce que là, pour le coup, on a un vrai goût de morille et on a quelque chose de vraiment très prononcé.
Mais je vais pas te rendre un petit peu utile et nous la découper.
Voilà, parce que là, j'étais en train de parler, je voyais la chose devant moi et je me disais,
c'est compliqué là. Il a un gros couteau dans la main, on va te laisser la couper.
On va essayer de pas me couper.
Et tu vas quand même essayer de répondre à nos questions. En même temps.
Je suis multifonction.
Attends, moi, je te tiens le micro si tu veux.
On parlait de recettes familiales parce que tu co-diriges avec ton père Gilles, enfin avec tes parents, la maison Véro que tes parents ont créée.
C'est la quatrième génération.
Bah oui.
Non, alors c'est pas autant que la grande maison Storer.
Non, mais c'est vrai. Mais, le plus vieux pâtissier.
C'est déjà pas mal.
Non, c'est vrai qu'en plus, mon arrière-grand-père était pâtissier, mon grand-père était pâtissier et mon père était pâtissier.
Ah ouais.
Ce qui est complètement faux.
Je suis la quatrième génération donc de charcutier dans la famille, des deux côtés, que ça soit du côté maternel ou paternel. Et par contre, la tourte de Noël, c'est une recette un peu récente, mais super bonne. Et c'est le produit avec lequel on fête Noël chaque année depuis qu'elle a été créée. Et je suis super content de vous la faire goûter.
Ah, de goûter. Une tradition familiale comme ça. Hein.
Bah oui, c'est génial.
Je suis assez jalouse là.
Ouais, je te cache pas qu'on va comme tous autour de la table, on va pas mal travailler dans les semaines qui viennent, mais de savoir qu'au moins à la fin, on va pouvoir manger cette petite merveille, on est super content. Qui veut goûter?
Bah, tout le monde.
Tout le monde.
Parce que pour ceux qui n'auraient pas eu la chance forcément de goûter les spécialités de la maison Véro, c'est vraiment, Mina, je sais pas, le Graal du charcutier traiteur à Paris.
Exactement.
Les meilleurs pâtés en croûte, la meilleure choucroute aussi, moi, je trouve. Les meilleures terrines, les meilleures spécialités de charcutier traiteur. Bon, chez Storer, il y a des trucs vachement bien aussi.
Très belles maisons parisiennes.
C'est vrai. Il faut même pas les comparer. C'est deux registres assez différents. Ça a été une évidence pour toi, Nicolas, de reprendre le flambeau?
Ça a été une évidence, non, parce que on va pas se voiler la face. La charcuterie, quand on est adolescent, quand j'avais 15 ans, avait pas la même presse qu'elle avait aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas passé le meilleur collège pas parce que quand on est dans un beau quartier, j'ai eu la chance d'habiter de grandir à côté de la boutique, donc dans un beau quartier, j'ai eu la chance
dans le 6e arrondissement du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs,
exactement, et là-bas les parents sont plutôt journalistes, médecins, charcutiers. On arrive un peu tout en bas de la liste des métiers cool, mais sauf que je cache pas en avoir un peu souffert et je me suis orienté vers des études de droit. Et puis en fait, je me rendais compte que le droit, j'aimais bien, il n'y avait pas de souci, mais ça ne me faisait pas rêver. Mais ce qui me faisait doublement rêver, c'était la charcute, c'était la gastronomie et tout ce qu'on pouvait faire avec. Et donc, à 19 ans, j'ai dit à mes parents que je souhaitais les rejoindre. Et c'était un vrai choix, c'était pas un truc par défaut parce que ça se passait mal ailleurs, c'était vraiment parce que je préférais ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille ensemble et que ça se passe très très bien.
Et ça change à la reconnaissance sociale, vous trouvez aujourd'hui?
Non,
le charcutier.
Oui, ça change, mais en fait, il faut bien aujourd'hui, une bonne dizaine d'années plus tard, quelque part, je m'en moque de ce que les gens pensent de moi. Mais quand on se construit en tant que jeune homme et qu'on a entre 12 et 15 ans, c'est important. Et je pense qu'instinctivement, je me suis un peu éloigné de ça. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques années maintenant, je m'y retrouve. Et surtout, c'est pas un choix par défaut. Je sais que mon père, lui, a été un peu forcé par mon grand-père de reprendre l'entreprise. Moi, c'est un vrai choix. Et c'est une vraie passion. Et tous les matins, je prends un plaisir fou à me lever et à venir bosser.
Et comment tu mets ta pâte? Parce que le répertoire de la Maison Véro, il est déjà très fort. Il y a plein de recettes vraiment emblématiques. Comment tu t'y prends pour... Est-ce que tu essaies de renouveler un peu le répertoire? On t'a vu travailler notamment avec
Céline Femme.
Avec Céline Femme, oui, sur une création. Céline Femme, c'est cette chef qu'on a reçue il y a quelques mois. Vous avez travaillé ensemble sur un...
Sur le banh mi en croûte.
D'inspiration complètement vietnamienne.
Vietnamienne, franco-vietnamienne.
Oui. Exactement.
Et ça, c'est quelque chose que ton père n'aurait pas forcément fait.
On n'est pas là pour dire... Enfin, non. Moi, j'aime pas dire oui, mes parents, ils n'auraient pas fait ça sans moi. Avec moi, on fait ça. On essaye vraiment d'être sur une continuité. Aujourd'hui, on a énormément de chance, c'est qu'on est sur une transition longue. Et donc, mes parents et moi, on va être amenés à, pendant très longtemps, bosser ensemble. Pour certains, ça pourrait être un enfer, mais pour nous, c'est un vrai plaisir, en fait. Et l'idée, c'est que, bien sûr, je mette ma patte, bien sûr qu'ils continuent de laisser la leur, mais juste qu'on soit sur une transition douce, où aujourd'hui, on peut pas dire, bah tiens, il y a une décision, on sent que c'est Gilles Véro qui l'a prise, on sent que c'est Catherine Véro qui l'a prise, ou on sent que c'est Nicolas Véro qui l'a prise. En fait, c'est une sorte de cheminement à trois, et puis également avec tous nos collaborateurs, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas envie qu'on dise, bien, depuis qu'il est là, ça a tout changé. Parce que, sur le principe, je pourrais très bien tout changer en mieux. Ça serait très prétentieux de ma part de dire ça et de le penser. On était sur une très belle maison parisienne et stéphanoise à l'origine. J'ai pas envie qu'on dise, ça change du tout au tout. Bien sûr qu'il y a eu une influence depuis que je suis rentré, mais j'ai pas envie qu'on dise, voilà, Nicolas, il a fait ça. C'est Gilles, Catherine et Nicolas Véro qui le font et pas juste l'un d'eux.
Finalement, c'est un peu comme Storer, c'est-à-dire que on n'a pas forcément envie d'avoir beaucoup de trop de réinterprétations, d'espèces de créations un peu hybrides. On aime bien aussi les choses réconfortantes, ouais, les plats réconfortants,
les classiques,
c'est ça.
Et des petites touches impressionnistes qui prennent des chemins de traverse.
En tout cas, cette tourte, c'est une vraie bonne raison de fêter Noël. Hein.
je te remercie.
C'est magique.
Merci à tous. C'est des classiques, la Maison Véro. Mais en fait, on pense que la charcuterie, c'est quelque chose de classique parce que le savoir-faire charcutier est en train de faire sa mue, comme le savoir-faire pâtissier. Les cuisiniers, bien avant ça, ont fait leur mue. Et c'est-à-dire qu'on leur dit, regardez, ce produit-là que vous pensez classique, on peut en faire ce genre de choses-là. Il y a quelques années, le pâté en croûte, ou le pâté croûte, selon, c'était un produit ringard.
Ouais,
aujourd'hui, ça n'a plus rien de ringard.
C'est clair.
C'est
pâté en croûte, pas de toi.
je vais quitter la pièce.
C'est du mec, alors qu'ils sont juste quand même champions du monde, il faut le rappeler.
Oui, c'est vrai. Champions du monde du pâté en croûte.
C'est pas l'orgueil qui t'étouffe. Hein.
Non, mais c'est pas la question d'être orgueilleux ou quoi que ce soit. Mais en fait, on essaye de promouvoir un savoir-faire, le savoir-faire charcutier. Et de dire, voilà, on peut faire des choses géniales avec la pâtisserie salée, avec tout ce qui va être pâté, terrine, et on peut sortir des sentiers battus et dire ce que vous connaissiez, c'était une façon de faire, mais il y en a des milliers d'autres. Et par facilité, on s'est enfermé dans cette façon de faire, mais il y a 100 autres façons de le faire. Et c'est ça qui est bien et qui est super excitant, c'est de refaire découvrir toute l'étendue de ce savoir-faire aux gens, et bien sûr en regardant ce que font les pâtissiers, ce que font les cuisiniers, parce qu'ils nous apportent énormément, vu que quelque part ils sont en avance sur nous.
C'est une histoire d'ouverture d'esprit, en fait. Ouais, passion.
J'allais dire on goûte, mais je vois dans vos assiettes que c'est fait.
Qu'est-ce que c'est bon, hein.
Regoute,
moi j'ai déjà englouti ma part.
Mais c'est pour être mangé chaud, de toute façon.
Ouais.
Voilà, fallait pas attendre.
Non, mais.
Dit-elle avec un morceau de tour dans la bouche. Merci, Amandine.
C'est quoi la plus grosse difficulté technique de cette recette?
C'est une recette, pour le coup, qui est pas très, très compliquée. Je vais vous le dire très simplement. En fait, on est sur une base qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on sait bonne. On est sur de la volaille. Alors ici, c'est pas n'importe quelle volaille. C'est de la volaille de Bresse. Ça n'en sera que meilleur. On est sur un champignon. Les morilles, une farce de cochon. Le cochon a un vrai intérêt en charcuterie. On met pas du cochon pour le plaisir de mettre du cochon. On aime beaucoup cette viande, cette matière première, mais c'est parce qu'en fait le cochon va apporter le moelleux à la farce, et donc et foie gras de canard aussi, parce que le foie gras, mine de rien, apporte un goût, une texture et également une mâche si particulière.
C'est le jeu de texture qui est génial. Côté mou, moelleux, résistant, dense, c'est tout, c'est trop bon ça.
Merci.
Amandine, on sait que tu es très sensible aux questions de gaspillage alimentaire. Noël, c'est la fête par excellence qui est synonyme de gaspillage alimentaire. Comment est-ce qu'on fait s'il nous reste... Alors, je pense pas qu'il nous reste de la tour de Noël, parce qu'on l'aura forcément englouti.
J'espère.
Mais s'il nous reste un peu de foie gras, un peu de saumon fumé, ou tiens, un reste de volaille.
Reste de volaille, puisqu'on est dans les tourtes, typiquement, tu peux très bien effilocher ta chair de volaille, la rassaisonner avec un petit peu d'échalotes gentiment poêlées, et puis tu remets ça dans une pâte feuilletée. Ça prend allez, à tout casser 10 minutes.
Tu te refais une tourte après la tourte.
Le lendemain. Mais oui. Non, mais de ta volaille, tu vois, tu peux.
Ouais, génial.
Si t'as des restes de volaille, de chapon, de dinde ou des choses comme ça, c'est très rapide. Tu mets ça dans une pâte feuilletée. Ça va réchauffer la chair sans la dessécher plus que ça, parce que c'est toujours un peu compliqué de réchauffer des volailles cuites. Et puis, en général, ça fait plaisir à tout le monde.
Trop bien, ça.
Et justement, vous allez manger quoi à Noël, Emmanuel, par exemple? C'est quoi ton.
Des fruits de mer,
ouais.
Du poisson, puis on finira par un petit peu de fromage et une bûche.
Une bûche.
Je te livre la tourte, en plus, parce qu'il faut quand même un peu.
Mais tu livres dans le Cotentin?
Ah ouais. Oui, on livre, on fait des commandes en ligne, on a un site internet sur lequel on peut commander.
Partout
et vous recevrez partout en France, et bien sûr, France métropolitaine, Corse inclus bien entendu, et vous pouvez recevoir la tourte le 24 décembre au matin.
Génial, mon passe commande.
Une tourte.
Et toi, Jeffrey, tu manges quoi
Bah là, je suis en train de manger une
tourte. Ouais, je.
Enfin, c'est ma deuxième part.
Il a mangé la mienne.
Bah, généralement, nous, on fait chapon, fruits de mer. En fait, on fait une très grosse table avec beaucoup, beaucoup de choses sur la table. Donc, ça peut être une très bonne tourte. Et tout ce qu'il y a déjà sur cette table, on charge la table à fond, nous.
Ah ouais, d'accord.
Il y en a pour trois jours après.
Trois jours après. Amandine?
Moi, j'aime bien les choses pas forcément très compliquées techniquement, mais que tu mets au milieu de la table et où tu partages. Enfin, dans ma famille, Noël, c'est un peu l'occasion annuelle de se retrouver et de se voir. On est assez nombreux, donc tu fais un dos de biche que tu mets dans le four, tu le poses sur la table, c'est hyper simple, c'est hyper bon, tout le monde est content, hop.
Et chez toi, Nicolas, la tourte, j'imagine.
Donc, on a la tourte, mais c'est vrai que Noël, c'est pas le moment le plus festif de l'année pour nous.
Vous bossez comme des fous.
Mais ouais, je pense que on est, je suis pas le seul autour de.
Tu peux venir dîner chez vous,
table. Si tu peux, mais par contre, tu fais la vaisselle, tu débarrasses et tout et tout. Hein, tu mets la table.
D'accord.
Mais
oui, vous bossez tard le 24 et vous bossez le 25.
Exactement. Mais par contre, on fait un point d'honneur à faire un vrai repas de Noël. Et donc, sur ce repas, il y a toujours la tourte. Enfin, depuis qu'on fait la tourte de Noël, il y a la tourte de Noël.
Alors, à ton tour, Emmanuel, parce qu'on a attaqué avec la tourte.
Ouais, on passe aux fruits de mer.
Dans l'ordre, bah ouais, les fruits de mer. Toi, tu vis carrément sur ton bateau.
Non, j'ai une maison, quand même. Mais effectivement, je passe beaucoup de temps et sur mon bateau et dans mon camion.
Dans ton camion, d'accord. Donc, t'es pas vraiment sédentaire, quoi. T'as une maison, mais que.
Du tout.
Et combien d'heures sur ton bateau tu passes ?
Peu, parce que je suis plus à Paris à livrer je laisse mon mari se débrouiller avec la mer, il le fait très bien.
D'accord. Ton nom circule dans le milieu des chefs depuis quelques temps, on ne jure plus que par toi. Tes poissons et tes fruits de mer sont le produit de ta pêche, c'est une pêche artisanale.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle fait.
C'est vrai. Ouais. C'est pour ça que dans cette émission d'ailleurs, j'ai envie de la crème. Donc c'est une pêche artisanale de petits bateaux, enfin bateaux de 9 mètres, on appelle ça un petit bateau, et surtout responsable, poisson de saison. Il n'y a pas que les restaurateurs, d'ailleurs, qui ont la chance de travailler tes produits. Tu les vends aussi au cul du camion. C'est quoi? C'est le vendredi soir, devant le restaurant Les Arlots, dans le 10e arrondissement de Paris. C'est ça?
Voilà, ouais, parce que c'était un petit peu plus calme avec les restaurants et on avait énormément de demandes de particuliers. On a un emplacement de marché à Levallois-Perret et les Parisiens ont un petit peu de mal à sortir d'intramuros. Donc, du coup,
tu viens.
C'est le périph.
C'est ça.
Voilà, on était à table aux Arlots et on s'est dit, mais oui, c'est une évidence.
Donc, tu fais Grandville. Paris, en camion pour livrer les Parisiens.
Grandville, Paris, en camion, deux fois la semaine.
C'est ça, et on commande sur ton site internet.
Tu commandes sur le site internet, c'est lespanierdelapetitelaura.com. Ouais. Et t'as le vendredi, la pêche du jeudi soir dans ton
super.
Panier.
Et toi aussi, comme Nicolas, tu es née un peu dans le sérail. Petite fille de marailleur, fille de pêcheur et de poissonnière. Épouse de pêcheur, mais tu as mis un peu de temps à l'assumer parce que tu as fait une reconversion après avoir bossé dans l'immobilier.
Ouais, j'ai fait des études de droit, comme Monsieur Véro, et finalement ça pousse à retourner à l'artisanat.
Je vois pas de quoi tu parles.
Je m'ennuyais énormément, je voulais faire la pêche depuis toute petite.
Qu'est-ce qui t'avait empêché de te lancer directement?
Je travaillais un peu bien à l'école, donc on a dit.
Ah, c'est fâcheux ça.
On a dit à mon petit frère, toi tu prendras le bateau, et moi c'est tu feras des études. Et je me sentais pas bien du tout dans mes baskets, et un jour. J'avais des enfants, donc c'était pas évident de reprendre la pêche. Mmh. Donc je me suis dit, je vais faire marailleur, je vais faire le lien entre les pêcheurs et les professionnels. Mais c'est parti comme ça il y a 6 ans, d'un coup de tête.
D'accord. Et ton mari, c'est ça, pêche le homard ?
Mon mari pêche le homard. Il a un petit caseilleur à Grandville et il pêche le homard et les araignées.
Et depuis 6 ans, depuis que t'as opéré ta mue, t'es très heureuse. C'est difficile. C'est forcément difficile physiquement.
Je revis. C'est très difficile physiquement. J'ai pas l'impression de travailler. C'est quand même quelque chose qui est assez formidable de se lever le matin sans avoir l'impression de bosser.
Tu te lèves à quelle heure le matin?
Ça dépend, entre 4 et 5 heures en fait. Je finis plutôt tard le soir parce que le temps de revenir à Granville. Voilà, mais.
Et tu as des enfants?
Deux enfants.
Et Louise vous et Léandre.
On compose quand il y en a un qui rentre de la mer, l'autre part au travail et inversement.
Vous débrouillez quoi?
On se débrouille, on compose. Et, comme papa et maman sont plutôt heureux, eux sont plutôt épanouis aussi.
C'est paradoxal, à la fois c'est très éprouvant physiquement et en même temps t'as pas l'impression de faire un travail.
Non, pas du tout. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai l'impression de travailler, j'arrêterai et je ferai autre chose.
Tu nous as apporté de très belles huîtres.
Merveille.
Ouais, on a un mélange d'huîtres de chaussée, un peu plus fines et iodées, et d'huîtres d'Isigny, donc de l'autre côté du Cotentin, qui sont un petit peu plus charnues et plus douces.
Ça, c'est une chaussée ou une Isigny que j'ai mangée?
Là, t'as une Isigny.
Oh là là. Comment tu les reconnais?
Bon, toi, tu les reconnais.
Comment on les reconnaît?
Ouais, à la forme.
Elles sont un peu plus comme
ouais,
ça.
Il y en a une qui est un petit peu plus foncée. Et un petit peu plus de bénis, etc. dessus. Et l'autre va être un petit peu plus grise, violacée en dessous.
T'en penses quoi, Amandine?
Ah bah j'adore. Enfin, c'est marrant parce que...
Vous connaissez?
Ouais. J'ai commencé, tu sais, ça fait un mois et demi que j'ai ouvert et en fait...
dans le dixième.
Et avec ce resto, j'avais envie justement d'aller au plus près des artisans et des petits producteurs et des gens qui travaillent en grand respect de la mer, parce que ça, c'est un vaste sujet et il y a une vraie position militante à avoir aussi par rapport à ce qu'on mange et ce qu'on met dans nos assiettes pour le réveillon. J'ai commencé à bosser avec elle, notamment sur les Saint-Jacques.
Oui, c'est
vrai. Parce que là, je vous garantis que quand vous avez goûté ces Saint-Jacques-là,
alors
plus jamais vous avez envie de manger autre chose. C'est un bonheur, quoi. Un vrai bonheur. Mais on n'a jamais le temps de se plaire parce qu'elle dépose ses paquets. Moi, c'est souvent en plein service. Donc, on se dit bonjour à travers la porte. Et puis, chacun repart dans son boulot. Oui.
Mais tu vois, tu rigolais quand on disait les chefs ne jurent plus que par toi. Mais moi, on a rencontré déjà beaucoup de chefs avec lesquels tu travaillais.
Je pense que tout le monde est un peu amoureux de toi, moi. Un petit truc un peu comme ça.
N'hésite pas à me le dire, ça m'aidera à me lever le matin.
De toi et tes produits, pas que de toi comme personne. Mais c'est vraiment, c'est vrai.
Tu travailles avec beaucoup de chefs à Paris?
Je travaille avec pas mal de chefs, ouais. Je dirais entre 20 et 25 chefs à Paris.
D'accord. Et de Palace ou de non, enfin de tout.
De la brasserie au Palace, en fait. On vend les mêmes produits, on applique les mêmes prix pour tout le monde, en fait.
Ok.
Amandine, même punition, même motif. S'il nous reste un petit peu de fruits de mer, alors je ne sais pas, les huîtres, s'il en reste rien.
Ouais. Ben, c'est toujours mieux quand c'est très frais. Ouais.
S'il reste un peu de chair de crabe ou je ne sais pas, une chair d'un crustacé.
Les chairs de crabe, les chairs de crustacés, autant les manger dès qu'on peut, c'est toujours nettement meilleur quand c'est très frais. Ouais. Après, rien n'empêche de les assaisonner le lendemain avec une petite mayonnaise maison, évidemment. Le faire en petite tartine, tu sais, comme nos amis anglais aiment beaucoup faire.
Génial, ça.
Et là, tu prends un bon pain et t'es au bout de la terre.
On est d'accord qu'une bonne tartine, c'est toujours bien, quoi.
Ah bah ouais, quand t'as un bon pain. Faut un bon pain.
Et du beurre normand.
Et avec un peu de bon son, c'est encore mieux. Moi, je vous propose d'écouter un morceau que je trouve pas mal pour Noël. C'est Christmas in Harlem de Kanye West, entre autres. Christmas in Harlem.
And all a good night, huh? Now we all living the good life, yeah. Though it's 40 below the wind chill, and we wiping snow up off the windshield. It's still a wonderful night to be alive, baby. And I'm so happy I'm with my baby. And we a little late with the Christmas gifts, rushing for the mall. Don't trip, you know I drive crazy. The streets lit up, it feel like Christmas officially. Told her that you the star at the top of my Christmas tree. My only question is, where my presents? She said, she got a gift for me that ain't for the kids to see. Well, I like the way you think, mommy. Now pour some more eggnog in your drink, mommy. You been a bad girl, give Santa 3 kisses. Gave her the hot chocolate, she said it's delicious.
Christmas in Harlem, yeah. Right after autumn falls, soaking it all in. Then we gon' hit the mall.
I'm like Bad Santa,
even though we ain't falling.
I'm glad to sit on my back.
Feel like we
Christmas. Santa Claus Cherry X6. Dame here my reindeer. Make it snow on the next chick.
Yes.
Got enough toys. Wondering what's my next pick before my exit. It get diamond Rolex reckless. Big bags. Got everything on the checklist. Necklace, baguette, wrist, pockets fat. They precious. Give mom a pet kiss. Look and tell her she precious. Lighting up the sour. This tree give me the best gifts.
And I remember when I couldn't play Santa Claus. No reindeers. Just horses in a panorama park. We on 2/5 shopping with the damage cost. I got your fam while you bidding in the can of gnaw.
I got your books.
Her man Neiman's, hope they still got them. She want them thigh high spikes with the red bottom. Let's make a toast, cause Christ is born. We gon' party all night till the lights come on.
Amen.
Christmas in Harlem, right after autumn falls. Soaking it all in, then we gon'
Mom and Dad, I won't be home for the holidays. I'm over 800 miles away. In the city that's so pretty. What the hustlers dash through the snow without a sleigh. Tell my family that I'm sorry that I gotta stay. I'm with Ye at the Macy Day Parade. Letting the snow fall on my aviator shade. Even though I'm in New York, I'm still repping for the A.
Christmas in Harlem, right after autumn falls.
On the stoop of that brownstone, shoveling the brownstone. Santa's on a diet, gotta get the pounds gone. Downtown got me feeling like it's Dow Jones, but uptown got me feeling like it's down home. Snow like Sugar Hill, chains on wheels. We turn our two doors into snowmobiles. We got our own style, no Soho feel. Put on your play clothes, how that logo feel? Oh, pause for them photo steals. You don't wanna miss a moment, where's your no-dose pill? I caught her looking at my rollie as my mojo spills. Snowflakey on the bezel, hope you know those real. Okay, my white girl Veronica, black girl Monica. Got me celebrating Christmas, Hanukkah, Kwanukkah. Rockin' dashikis with a yarmulke. Where the Christmas tree at? Let's design it up.
Christmas in Harlem, right after autumn falls.
After Saint Nick, never seen Saint Nick. Just niggas selling the same Nicks, the same bricks. Same hustlers running up the Broadway. That's where the snow's at. Taste it, foreplay. No turkey or greens, just Jimbo's. Christmas lights and project windows. Shout to the coldest on my barometer. Berkman, Shapiro, Kalina, Hanukkah.
Chaud.
Le deuxième vin que tu nous conseilles est pour quel membre de la famille ?
Attention, il arrive, le voici ! Noël ne serait pas aussi gras et fastidieux sans lui. Je veux parler du tonton raciste ordinaire. Tonton, pour l'embêter, c'est pas du pinot blanc qu'on va lui faire boire, mais du pinot noir. En plus, un vin fait par un homme et une femme. Et non, tonton, les femmes ne sont pas trop faibles par nature pour bosser dans les vignes. Ici, on est au tout début de la Bourgogne, chez Marion et Florent Masson, sur des vieilles vignes en bio à Épineuil, à côté de Tonnerre. Évidemment, première réaction du tonton, vous l'imaginez, il a une robe de mauviette, ce pinard. C'est sûr, c'est pas tous les jours que tonton rencontre l'élégance. Autre déconvenu pour lui, ce bon Bourgogne était l'un des pinards de chevet du travesti le plus fantasque de l'histoire de France, le chevalier de Déon.
Non mais c'est qui? C'est l'inventeur du néon? Tu peux vraiment dire
oui? C'est vraiment ma relance.
Bien tenté, Elvira. Bien tenté, Elvira, mais non. Charles Déon de Beaumont, dit le chevalier Déon, était un personnage brillant des Lumières, diplomate, espion, homme de lettres, qui est resté célèbre pour son goût prononcé pour le travestissement. Et oui, il vécut habillé en homme pendant 49 ans et en femme pendant 32 ans.
Ah, j'adore.
Ça lui embouche un coin au tonton.
Bon, et ça se boit avec quoi ?
Alors, le tonton, il va sans doute vous proposer de le boire en regardant un live du petit bonhomme en mousse. Vous avez le droit de refuser et de lui proposer plutôt une volaille ou une viande rouge. De toute façon, ce vin, avec ses arômes d'épices et de fruits charmeurs, c'est sûr. Votre tonton à vous aussi va tomber dans le pinot.
Et ça coûte combien, cette petite blague ?
14 euros, à la cave de Belleville. Argument de massue pour convaincre tonton Picsou.
Cheers.
C'est classe, hein. Ça, c'est pas vraiment prononcé sur le
vin.
C'est
élégant, il y a une belle concentration, c'est pas très cher.
Non, très bon, très léger.
Joli petit Bourgogne à 14 euros quand même.
Ouais, c'est élégant, hein.
Très, très bon.
C'est chaud.
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 Chaud, chaud, chaud.
Présenté par Mina Sundiram et Elvira Masson.
Dans cette émission, on aime manger, mais on aime aussi jouer. Alors, on vous a concocté un petit quiz spécial Noël.
Attendez, il faut répondre vite. Hein. L'idée, c'est faut quand même un peu au taquet.
Alors, chacun choisit un cri d'animal. Et, parce qu'on n'a pas de buzz. Tu peux faire le Père Noël, Geoffrey ?
Oui, bien sûr.
C'est pas un animal, mais ça peut être ton.
C'est un quiz en quoi ? On a quatre questions ?
On a quatre questions. Rapidité, et le gagnant repart avec tous les desserts.
Ah non. Il repart avec notre reconnaissance éternelle.
Là, ça va être sérieux. Il gagne le droit d'être invité dans la
bouche. Merci.
Tu peux partir parce que là, on est en train de goûter un excellent homard en plus. Donc, on commence. Question numéro 1. Bon, j'espère que vous avez tous vu Le Père Noël est une ordure. Au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Quel ingrédient n'a pas sa place dans la recette des doubichous ?
N'a pas sa place.
La farine, la margarine, les œufs, la cannelle, le cacao.
Ah, la vraie question.
J'avoue, franchement, le doubichou.
Moi, j'irais la farine.
Le pâtissier, non ?
Amandine, tu dis
Amandine, la farine.
Moi, je dis le cacao.
Le cacao, okay.
Je partirai sur la farine aussi.
Ok. Emmanuel, tu as une idée de l'ingrédient ?
Cacao aussi.
Ah ouais ? Eh bien, ce sont les œufs.
Ah, bon.
Voilà, il n'y a pas d'œuf.
Vous allez être obligé de revoir pour la 39e fois Le Père Noël est une ordure.
Vous avez faire un doubichou de qualité chez Storer. Redorer le blason du doubichou.
On a une idée de doubichou, mais on est en train de se tâter là. Justement, on réfléchit.
Ça, c'est le
on est en train de voir avec la Maison Véro, justement, s'ils peuvent pas nous aider.
Voilà, on parlait justement avant de commencer
une collab pour 2020.
X, le Véro.
Voilà, le doubichou.
Septembre prochain, peut-être.
Voilà. Deuxième question, Aitor, à toi l'honneur, elle vient de ton, c'est de ton toi cerveau qui malade.
Voilà. Non, attention, qu'est-ce que le porcanalatico, pardon pour mon finnois, que les Finlandais consomment à Noël ? Inutile de répéter le mot, j'imagine. A, un cochon nain albinos de Laponie. B, un alcool à base d'écorce de bouleau et de baies. C, un gratin de carottes, riz, lait et œufs.
Heureusement que je suis jamais allé à la question pour un champion, parce que je crois que j'aurais perdu. Hein.
Moi,
j'ai Fred dit deux, un alcool de bouleau.
Ouais, l'alcool de bouleau.
Amandine aussi.
S'ils disent tous pareil, je dis comme eux.
Hein. Emmanuel,
je suis.
Bande de suivistes.
Bande d'alcooliques.
Il faut savoir quand même que les Finlandais, il leur arrive aussi de manger solide. Donc c'est un gratin de carottes, comme une espèce de flan carotte.
Mais en fait, vu que c'est toi qui nous posais la question, on s'est dit c'est forcément l'alcool.
Ok, très bien, mais je mange des légumes, monsieur, aussi.
Gratin de carottes, riz, lait et œufs, ouais, beau. Ça fait pas rêver, hein.
Troisième question. Citez-nous trois spécialités sucrées de Noël en Europe. Une par pays.
On donne les pays. On donne les noms de pays pour les
non,
aider.
Non,
non, ils se débrouillent. Vous choisissez des pays au hasard.
Bah oui.
Bah la France, la bûche.
Ouais, bon, ok.
Non, mais hors la France.
Bah non, c'est... attends, pourquoi ?
Non, mais si on vous aide en Italie.
Panettone. Le panettone, ouais.
J'ai un Christmas pudding en Angleterre.
Ouais, absolument.
Non, c'est pas terrible.
Tout est vraiment très bien.
Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ?
Ils font pas des espèces de strudel en Allemagne ?
Ah, t'es pas loin.
Ah, t'es pas loin, ouais.
C'est quelque chose.
Un truc un peu comme ça.
Strudel, c'est pas vraiment Noël. C'est un
Stollen.
Voilà.
Le Stollen.
Dernière question. On va vous faire écouter un extrait. Il faut nous dire, un extrait hyper court. Il faut nous dire de quel film il est tiré.
C'est pas vrai, j'ai oublié les trucs. C'est une catastrophe.
C'était très court.
Une deuxième écoute ou pas ?
Peut-être un peu plus longtemps.
Je suis nulle.
Ah non, plus longtemps, c'est pas possible.
Non, plus longtemps, c'est possible.
C'est pas vrai, j'ai oublié les trucs. C'est une catastrophe.
On connaît la chanson ?
Non.
Non, c'est pas ça ?
Non, mais il y a une actrice en commun avec On connaît la chanson. La voix que tu entends, c'est la voix de quelle actrice ? La première ? Sabine Azéma, qui est également dans le film de René. Une réponse dans le studio, peut-être ?
Oui.
Sur le canapé ? Non, non plus. Ah, oh, vous l'avez pas ? La deuxième voix, c'est celle d'Emmanuel Béache.
Oui, voilà, bravo bouche, Amandine.
Daniel Thompson.
Bravo.
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 On va dire que
c'est Amandine qui remporte
Amandine
ce
droit
quiz.
À notre reconnaissance
éternelle. Voilà.
Ouais. Bravo. Et un cookie.
Et tous les gâteaux. Elle embarque tous les gâteaux.
Justement, tu vois, la transition s'enchaîne parfaitement.
Parfait. Double challenge auquel on t'a soumise, puisque tu nous proposes des légumes pour Noël et pas n'importe quel légume, des choux de Bruxelles.
Ouais.
C'est quand même un peu une...
Contre-intuitif.
Contre-intuitif, c'est ça.
Mais non, mais c'est tellement bon, les choux de Bruxelles.
Vas-y, arrêtez avec ces... Alors, tiens. Tiens donc.
Allez, fais passer.
Tiens, fais donc, passer. Attends, ce sont des choux de Bruxelles râpés, crus.
Ouais, exactement. Cru, râpé, avec, assaisonné avec de l'huile de basilic, un petit peu de basilic frais, il y a des pignons torréfiés. Génial. Et de la grenade.
C'est courant, le chou de Bruxelles cru et mincé comme ça? Ça se fait ou c'est...
Écoute, je sais
pas si c'est très courant. C'est un truc que t'as
fait en Angleterre. Là-bas, le fait est qu'il y a quand même beaucoup de choux de Bruxelles et notamment des très bons choux de Bruxelles. Tu sais, tu peux les trouver dans les marchés encore sur la tige.
Ouais.
Et c'est absolument superbe. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Cru, cuit, braisé, frit, en tempura, enfin, de tout ce que tu veux. J'adore ça. Et c'est vrai qu'on a commencé à faire ça au resto et les gens sont toujours un peu surpris. Et finalement, comme c'est cru, ça t'interpelle un petit peu. Bien il y a sûr. Moins de réticence qu'à manger des choux Bruxelles cuits. Et puis, finalement, tout le monde trouve ça quand même assez bon.
On citait l'Angleterre, parce que si on procède un peu sans méthode et un peu en désordre, tu as fait un passage à Londres où tu as vécu combien de...
J'ai vécu 4 ans.
Tu as vécu 4 Londres, ans, ouais. Tu travailles à l'hôtel Rosewood.
Ouais, j'étais chef exécutif du Rosewood.
Et ça, c'était un petit peu la continuité d'un assez long parcours, vraiment un peu en or massif. Tu es passé par les plus belles brigades, par le Plaza, par le Meurice, par le Crillon. Après des études de pharma, donc toi aussi, tu as fait des études qui n'étaient pas forcément celles qui te bottaient le plus.
Oui, complètement. Je venais d'un petit village, j'allais dire. Peut-être pas non plus, mais je viens d'Orsay, donc de la vallée Chevreuse. Et là-bas, c'est un peu conditionné, en fait, puisque tu grandis entre le CNRS, l'INRA, Polytechnique, HEC, Supélec. Donc, tout autour de toi est fait pour que tu fasses des études supérieures. Et effectivement, j'ai commencé par des études de pharmacie avant de me rendre compte que ça m'ennuie à mourir. On a tous ce point commun. Et du coup, je me suis réorientée à École Ferrandi. Et ensuite, j'ai travaillé dans ces établissements-là, effectivement.
Donc, combien d'années dans les palaces ou dans les très, très grandes maisons?
10 ans
En gros,
20 ans, ouais.
En 20 ans?
Ouais, mais dis rien. Tu veux que je te raconte une petite anecdote? La première fois que j'ai mis une veste de cuisine, c'était le juillet 98, le jour de la Coupe du Monde de foot.
Incroyable. Et c'était où, ta première veste de cuisine?
Ma première veste de cuisine, c'était la Maison de l'Aubrac, où j'étais apprentie en alternance à Ferrandi.
Puis dans l'ordre après?
Ensuite, dans l'ordre, faut que je réfléchisse là.
Non, mais à la louche.
Maison Prunier, donc à l'époque avec Bernard Leprince, où j'ai eu l'occasion de faire le Bocuse d'Or. Ensuite, le Place d'Athénée, Jean-François Piaget, Alain Ducasse. Ensuite, je suis partie à Londres une première fois. Je suis revenue pour aller au Bristol avec Eric Fréchon. Ensuite, le Meurice avec Yannick Aleno. Le Crayon avec Christopher H. Le Raphaël, où donc, j'étais chef.
Ouais.
Et puis là, maintenant, mon restaurant chez
ça
moi.
Ça y est, chez toi.
Et attends, voilà. Masterchef dans tout ça.
Ah oui,
Masterchef, à l'époque, j'étais
juré.
Ouais, j'étais juge. Et c'était à l'époque où j'étais au Raphaël.
D'accord.
Et si tu devais choisir alors la vie parisienne ou la vie londonienne, pour toi, hein, personnellement?
Mais tu sais que c'est hyper dur de choisir entre les deux. J'adore la vie londonienne, j'adore la vie parisienne aussi. Et en fait, j'adorerais pouvoir, dans quelques années, une fois que Poulish sera vraiment bien solide, pouvoir ouvrir un truc en Angleterre. Ouais, j'adorerais.
Comment on dit Poulish en anglais?
On dit Philly.
Philly.
Ouais. Mais c'est un petit peu connoté, donc faut faire attention.
Ah ouais. Bon. T'es bien chez toi? T'es contente?
Ça fait un bien fou d'être chez soi. Alors, c'est pas facile tous les jours parce que là, pour le coup, faut être hyper multitâche à gérer aussi bien la plomberie que la cohabitation avec les autres personnes de l'immeuble et de la rue, etc., etc. Mais c'est un vrai bonheur.
Et justement, comment t'es accueillie dans le quartier?
Écoute, assez bien. Après, il y a toujours des petits moments, un peu de tension. Tu sais, quand tu reprends un endroit comme ça qui a été un peu endormi pendant plusieurs mois, forcément, un restaurant, ça vit, ça fait du bruit, ça fait voilà, il y a des gens qui viennent. Mais dans l'ensemble, on est hyper bien accueillis. Il y a une vraie communauté en fait dans la rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement, et cette vie de quartier, je trouve que c'est hyper appréciable. Et on commence maintenant à voir les gens revenir, le bouche à oreille, on voit vraiment les faits, et c'est très très appréciable.
On évoquait ta sensibilité aux questions à la fois de lutte contre le gaspillage alimentaire et puis même ta sensibilité au végétal. Tu l'as toujours eue ou est-ce qu'elle s'est retrouvée peut-être accrue par le fait qu'il y a un gaspillage de malades, notamment dans les cuisines de palace, même si c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a 20 ans quand t'as commencé, c'était un peu la fête de... On jette des morceaux de turbo à la poubelle, quoi.
Ouais, ça a toujours été quelque chose auquel j'ai été sensible, effectivement. Moi, j'ai grandi dans une famille où on mangeait pas forcément des choses très compliquées, mais on mangeait des légumes du jardin, on allait au marché, on n'allait jamais en grande surface. Il y avait des choses qui n'avaient pas le droit d'être dans le frigo. On avait, par exemple, ma mère épluchait toutes les étiquettes des yaourts pour voir s'il y avait des conservateurs. Alors, autant te dire qu'il y a 30 ans, elle passait un peu pour une tarée. Mais oui, j'ai été toujours hyper sensible par rapport à ça, et c'est vrai que je suis de nature plutôt quelqu'un qui mange beaucoup de légumes et pas une grande carnassière, on va dire. Sauf que bon, évidemment, quand tu mets de la tourte comme ça devant le nez, c'est impossible de résister. Et là, je trouve que c'est important aujourd'hui. Enfin, on est tous conscients, et une nouvelle génération, d'autant plus qu'il faut revoir notre alimentation, qu'il faut voir la façon dont on vit de façon généralement. Donc oui, c'était important pour moi qu'il y ait un vrai parti pris d'avoir un jour complètement végétarien au restaurant.
T'en penses quoi, Geoffrey, de cette salade, de assiette de...
On a deux choses en une, on a aussi des carottes rôties au four là.
Ouais. Alors c'est juste magique. Voilà, moi je pense que la simplicité a du bon goût. Ça veut dire que déjà c'est la première fois que je mange ça cru. J'aimais ça.
Ah ouais, les choux de Bruxelles.
Ceci étant, bon, tu aimais ça?
Non, mais en fait, j'aimais. Ouais. Non, petit, j'aimais pas ça, mais comme tous les enfants, je crois. Mon fils n'aime pas ça. Ouais. Donc, mon fils, j'ai beaucoup de mal à lui faire manger. Donc, je crois que je vais lui faire manger cru maintenant. Voilà. Moi, j'aime ça. J'aime tout. Mais je vais peut-être l'emmener faire un menu enfant.
Ouais. Voilà. Il y a des menus végétariens. C'est 100% végétarien le mercredi.
Et le mercredi, on est entièrement végétarien. Ouais.
Ouais, pour le coup, lui, il adore la viande, donc ça, je vais pas l'emmener le mercredi. De manger sain, je trouve ça mieux. Et franchement, c'est vraiment appréciable. C'est frais. Et ça passe très bien après une bonne tourte.
Donc, ouais, surtout, c'est super bon, quoi.
C'est très bon.
Moi, ça, je vais refaire à Noël.
C'est complémentaire. Et c'est hyper simple, en fait, à faire.
Mais c'est à mon tour de vous faire écouter le disque que j'ai choisi. All I Want for Christmas de Mariah Carey.
Évidemment.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. All I want for
Aitor, un dernier vin pour terminer le repas ? Pour qui cette fois ?
Pour vos deux cousins qui passent Noël à s'engueuler. L'altermondialiste, Zadiz, végétarien et suceur de feuilles, comme le surnomme son cousin banquier, qui lui est tout juste rentré de Megève en hélicoptère, surnommé Monsieur Empreinte Carbone par le cousin zadiste. Ambiance, ambiance. Alors loin de moi l'idée de résoudre le conflit, qui est la sève du politique, mais essayons au moins de mettre un peu de sucre dans leur querelle. Pour ça, on va sortir un moelleux. Ici, c'est un chenin de Loire de Patrice Collin, un domaine près de Vendôme.
Donc sucré, mais pas trop trop sucré quand même, si ?
Non, juste assez pour que Noël ne tourne pas au vinaigre. On a cette douceur veloutée, onctueuse, d'arômes de fruits très mûrs qui vont amadouer la cousinade, mais tranchée par les notes d'agrumes au loin. Alors les cousins, vous voyez avec quoi ça se marierait du feu de Dieu ? L'altermondialiste de répondre « avec le grand soir ?» Le banquier de répondre « avec la suppression de l'ISF ?» Pourquoi pas ?
Mais c'est pas du théâtre, Hector, en fait.
Oh, mais je pensais plutôt au foie gras. Il paraît que l'on en revient à une vieille pratique des gourmets, d'ailleurs. Je sais pas si vous le saviez. Celle qui consiste à manger le foie gras avant le dessert.
Mais oui, on faisait ça autrefois. Ouais, exactement.
Avec un peu de moelleux, donc.
Ça va bien ensemble. Ouais. Et si on est végétarien, on fait comment ?
On le boit avec le dessert. C'est pas ce qui manque dans le studio. C'est un vin doux travaillé sans intrants et ça coûte, tenez-vous bien, la modique somme de 10 euros.
Bravo ! À la cave de Belleville, toujours ?
Toujours. Alors c'est vrai qu'on n'en boit pas des hectolitres, c'est plutôt un vin du bout des lèvres, si j'ose dire, à siroter avant d'aller chercher son cadeau sous le sapin. Oh, la biographie de Michel Leeb ! Oh merci tonton, c'est trop sympa. En tout cas, ma mission est accomplie, hein. On est d'accord ?
Oui.
Trois bouteilles consensuelles pour 39 euros.
Bravo.
Joyeux Noël, Thérèse.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël,
Aitor.
Joyeux Noël.
Vous vous reconnaissez des personnages comme ça ? Vous avez dans votre famille ? Sans balancer ?
Sans balancer, ouais.
On en a forcément.
Ah bah ouais. Il en manque quelques-uns, hein, ceci, dans le portrait de famille. Tu pourrais en rajouter encore, ouais.
T'as qui, toi ?
Bah, les ados caricaturaux, tu sais, qui sont
sur leur téléphone.
Mais grave, tu sais, parce que...
Ils ne boivent pas d'alcool,
le moelleux. Ah, mais si, le moelleux, attends, mais moi, j'ai tellement de cousines et de cousins qui ne boivent pas de pinard, mais tu leur mets un moelleux, ils sont contents, quoi.
Ah ouais, les ados, le sucré, ça les tire comme les mouchons.
Il y a l'ado, il y a le papy un peu...
Bah ouais, le papy gâteux.
Ouais, le papy gâteux.
Raconte les mêmes histoires à Noël.
Et toujours les mêmes histoires, ouais.
Il y a aussi quelqu'un qui veut pas manger et qui dit que tout c'est trop gras. Il y a forcément ça.
Ou alors le sans gluten,
ou les intolérants alimentaires.
Voilà. J'ai pas assez à manger.
Obligé.
Peut-être qu'on fasse une émission sur que faire à manger aux relous.
C'est pas tout, mais le déjeuner touche bientôt à sa fin. Oh non. Qui dit Noël ?
Oh zut !
Juste de seul, mais bon. Qui dit Noël dit bûche de Noël. Qui dit bûche de Noël dit Jeffrey Cagne.
Voilà.
Et en fait, tu ne pouvais pas nous faire plus plaisir. Tu nous as apporté ta dernière création.
C'est ça. Donc,
la bûche russe.
Alors, en gros, j'ai ramené la bûche russe. Donc, en fait, cette année, chez Storer, on fait 8 bûches sur les classiques de la pâtisserie française. Donc, on a la bûche russe, on a la bûche Saint-Honoré, on a la bûche Forêt Noire, on a la bûche Tarte Citron, on a la bûche Mont-Blanc, on a la bûche Sacher Tarte et on a la bûche L'Opéra.
L'Opéra, oui, l'opéra. D'accord.
Je trouvais ça intéressant, en fait, on sait jamais quoi manger en dessert à Noël. Les bûches, je trouve pas que ça soit le dessert le plus sexy de l'année, faut le dire. Donc en fait, c'est vrai que manger un classique à Noël, au moins, voilà, pour le coup, en fait, on sait choisir son dessert. On se dit, ben voilà, c'est quelque chose qu'on mange dans l'année, ben on va le manger de manière différente. Et notamment, ben, en bûche pour Noël, quoi.
Et alors la bûche russe, celle qu'on a devant nous, qui a l'air atomique.
Alors la bûche
incroyable.
Russe, c'est...
Ça, c'est bien ta cam, Mina.
Ah, mais ça, c'est exactement ma cam, mais bon, tu me connais. Bon.
Ouais, c'est
on
ça.
On se connaît.
Voilà.
Bah, en fait, l'écris en pensant à toi.
Je crois que réellement, en fait, la vraie histoire du russe, ça fait à peu près 2-3 mois que ça me trotte dans la tête, c'est une amie qui me dit, mais moi, j'adore le russe et je le trouve pas à Paris. Et je l'ai jamais mangé aussi bon que chez moi. Et du coup, en fait, alors que c'est un dessert très simple, qui est certes un petit peu old school, mais pour le coup, en fait, dacquoise, noisette, mousseline pralinée et noisette, il y a rien de plus simple. Moi, faut savoir que j'ai pas souvent mangé de russe et je me suis dit, je vais le réinterpréter comme je le pense. Donc dacquoise, noisette, fleur de sel avec des noisettes torréfiées, du Piémont. On est sur un praliné noisette à l'ancienne.
Déjà, pardon, mais dacquoise, noisette, c'est bon. Quoi.
Mais oui, en fait,
voilà.
C'est bon.
Le problème, c'est
que je pense que le praliné, c'est la vie. En fait, le pâtissier, c'est vraiment pour lui. Non, mais réellement, on peut faire un praliné à tout ce qu'on veut. Ça sera toujours aussi bon. Et en plus, ce qu'il y a dans le panier, on peut avoir, avec le même sucre, les mêmes noisettes, on peut avoir peut-être 50 saveurs différentes. Mmh. Tout dépend de la cuisson du sucre, tout dépend de la torréfication des noisettes,
c'est génial,
tout dépend de l'origine des fruits secs. Donc en fait, et juste avec du sucre et des fruits secs, on arrive à avoir juste peut-être 50 palettes de goûts différents.
C'est ça qui est fou de la pâtisserie.
Et c'est ça qui est fou. Ouais, ça veut dire que par exemple, en mettant un peu plus d'amertume dans un caramel, on obtient moins de sucre et on obtient un goût plus long en bouche. Donc en fait, c'est un... Alors, certains diront, bah non, c'est juste du sucre et des noisettes. Mais non, en fait, c'est ça.
Mais c'est ça qui est fascinant avec la pâtisserie. C'est une équation hyper basique. T'as très peu de produits, finalement.
C'est ça.
Et il y a un niveau de palette aromatique hyper varié, en fait, avec peu de produits au départ.
Et je trouve que même, à un certain niveau, l'irrégularité de la gastronomie en général peut faire un petit côté, justement, qui nous différencie, justement, de l'industriel, où, en fait, on a le même sucre, on a la même noisette, mais on arrive à avoir, de temps en temps, des petits écarts qui font qu'il y a un goût différent. Et c'est ça qui fait que l'artisanat serait toujours, pour moi, au-dessus de l'industriel, parce que c'est la palette, c'est la main humaine qui gère ce petit défaut. Et, en fait, ce petit défaut crée un côté magique. Voilà.
Jeffrey, c'était facile de trouver ta place dans une maison historique qu'on connaît surtout pour ses œufs engelés et ses pièces montées?
Non, en fait, alors déjà, cet horaire, c'est une histoire d'amour. Moi, ça fait 4 fois que
Tu dis ça parce qu'il y a ton patron dans le studio ou pas?
Non, je dis ça tout simplement avec beaucoup d'émotion parce qu'en fait, cet horaire, c'est la première maison qui m'a ouvert les portes quand je suis arrivé sur Paris. Faut savoir que là, je vis la même histoire, sauf que moi, j'ai pas fait d'études parce que j'étais trop intelligent. Je vis la même histoire que
tu t'es pas fait avoir comme les autres.
Mes collègues. Non, faut savoir que quand je suis arrivé sur Paris, j'ai quitté un peu ma famille, je les ai laissés, ils étaient à Nîmes et moi je suis arrivé sur Paris et que j'avais ma cousine qui habitait en face de chez moi et qui elle était en études de médecine et du coup je me tapais toutes les soirées médecine de Paris et que quand j'étais en soirée médecine pour tchatcher une demoiselle, je disais que j'étais à la Sorbonne parce que en fait c'était mieux que de dire que je suis en CAP de pâtisserie. Non mais c'est vrai que ces métiers là à l'époque c'était pas
c'est ce que tu racontais tout à l'heure, Nicolas.
On vit les mêmes histoires parce qu'on a à peu près le même âge. Bon, je pense que je suis le plus jeune
mais de loin.
Non, mais je charrie un peu mes collègues, mais en fait c'est vrai que c'était pas des métiers qui étaient glorifiants à l'époque. Et c'est vrai que
il y a eu un boom quand même là-dessus aujourd'hui.
Il y a eu un boom ces dernières années. Ça a commencé par la cuisine. On arrivait derrière parce que bon, le pâtissier était souvent derrière le cuisinier, ce que je peux concevoir parce que c'était la hiérarchie. Et voilà, et c'est vrai que la charcuterie arrive grâce à des maisons comme la maison Véro et d'autres maisons derrière. Et aujourd'hui, ils sont valorisés parce qu'il y a un vrai travail de recherche, il y a un vrai travail de... Et puis, je pense qu'on est tous sur des souvenirs d'enfance. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que les trentenaires et les quarantenaires sont nostalgiques de leur jeunesse parce que je pense qu'on vit une vie oppressante et que... Et donc, du coup, voilà, il y a une vraie... Même aujourd'hui, avec les fournisseurs de matières premières qui sont mis en avant parce qu'ils ont un vrai savoir-faire. Donc, toutes ces choses-là réunies font qu'aujourd'hui, on peut être fier de notre métier parce que on s'est battu pour et je suis heureux que, certaines personnalités, on va dire, publiques de notre métier ont représenté et ont pris un peu le drapeau dans les mains et nous ont, c'est eux qui nous ont un peu porté vers le haut et tant mieux. Je pense que, aujourd'hui, l'artisanat a sa vraie place et notamment, je trouve, en tout cas en France et dans le monde entier.
Une question, tu sais, dans cette émission, on aime créer des synergies entre nos invités. À quand une collaboration avec Emmanuel Marie? Après, une idée, juste une idée, un Kouglof au bulot.
Why not?
Un enfant gelé au homard, ça va?
Ah ouais?
Non, mais
attends.
Non, mais on peut tout faire, en fait, je crois
que
on peut. Et puis, why not? Pourquoi pas, en fait, créer le sucré salé, c'est très bon. Donc, je vois pas pourquoi le salé sucré serait pas bon aussi.
C'est bête. Voilà.
C'est quoi, dans la création, c'est quoi le moment qui t'excite le plus? Quand tu as une idée de recette, quand tu arrives à la réaliser?
Je suis un peu borderline. Ça veut dire qu'en gros, non mais il faut dire la vérité. À un moment, les créations, elles viennent comme ça. On va pas s'amuser à faire 60 000 essais afin de trouver toujours le. Je trouve que la spontanéité du produit, des fois, c'est la bonne. Il faut pas chercher à comprendre et pourquoi et comment. Je travaille un peu comme ça. Donc moi, j'avais envie de faire un russe. J'ai fait un russe. Demain, j'ai envie de faire une forêt noire. Je vais l'adapter comme j'ai envie de la faire.
Attends, t'es en train de me faire croire que le russe t'y arrivait du premier coup là. C'est la première.
Non, mais en même temps, un pâtissier, c'est faire une dacquoise, c'est faire une mousseline, c'est utiliser du praliné. Quelle est la difficulté en soi quand on a 17 ou 20 ans de métier?
Mina vient de goûter, elle se prend la tête entre les mains de joie, quoi.
Non, mais voilà, mais c'est un peu, je pense que, je sais pas, peut-être qu'Amandine, tu me rejoins, ou tu me rejoins aussi, c'est qu'à un moment, quand on a l'habitude de faire un produit, on va pas faire 70 000 essais avant de se dire que ce qu'on va faire.
Non, tu sais, c'est juste qu'on a moins de temps en plus, quoi.
C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps et on n'est pas en train de construire une fusée non plus. On va pas, il y a pas des risques humains de se dire que il y a 60 personnes qui montent sur la Lune. Non, non, juste on va faire un dessert et puis on va dire la vérité. Si ça plaît pas, le client est roi. Si ça plaît pas, on peut changer. On est en fait.
Mais justement, à Noël, c'est pas trop difficile de se réinventer à chaque fois, chaque année?
Alors, à Noël, il y a une grosse opération marketing qui nous dérange un tout petit peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur la bûche la plus belle, la plus fantaisiste, la plus, où on va utiliser les moules les plus beaux de la planète. Alors qu'aujourd'hui, je pense que de faire juste un bon dessert à Noël, sans forcément que ça soit le plus joli de la table, c'est, je pense que voilà, il faut faire du bon, du beau et de créer justement la gourmandise et garder, parce qu'on marque un souvenir de table. La bûche de Noël, tout le monde en a au moins une à table, et je pense que avoir une bonne note sucrée comme salée, hein, bien sûr, mais c'est un peu la finalité du dessert, du repas.
Mais moi, je te trouve super modeste dans ce que tu dis, parce que quand on a tous goûté autour de la table et on a tous trouvé que c'était une dinguerie,
exceptionnel, ton truc.
Et en plus, c'est pas moche du tout. Enfin, c'est super
non,
bon.
C'est pas ça. Non, mais c'est,
le truc, c'est beau, c'est non. bon, c'est maîtrisé.
Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'à un moment, en fait. On n'a pas créé un moule. Ouais, et en fait, je me bats un petit peu pour ça depuis quelques années. Je trouve que le geste du cuisinier, du pâtissier, du charcutier, tous ces gestes-là qui sont quand même nos gestes qu'on a appris et sont beaux, en fait. Et on n'a pas besoin de prendre un moule en silicone, de mettre de la mousse dedans pour dire que c'est un beau dessert.
300%.
Et que je trouve que le geste de savoir étaler une belle dacquoise, de savoir pocher cette mousseline, parce que mousseline, pour qu'on la poche, il faut que le beurre soit à bonne température et autres. Voilà, tous ces gestes sont juste déjà, pour mes équipes et pour moi-même, je trouve que c'est des gestes majestueux qui sont beaux à regarder et beaux à faire. Et voilà, voilà. Il y a une âme, je sais pas comment dire.
C'est drôle parce que voilà. Tous les quatre, vous êtes un peu dans le même état d'esprit, la même philosophie, à la fois toi, Emmanuel, la pratique de ton métier, qui est une pratique hyper artisanale, proche de celle que ta famille pratiquait dans le temps. Toi, Amandine, dans ta manière de te rapprocher beaucoup des producteurs et de la terre. Toi, Nicolas, dans la répétition aussi d'un geste et d'un patrimoine. Chacun à votre manière, vous concourez à cette chose qui est très naturelle, respectueuse des pratiques, et puis pas dans les esbroufes et pas dans l'ultra-technicité non plus. Ce qui n'empêche pas d'être très au point techniquement, quoi.
Bien sûr.
Je trouve que, Nicolas, tu disais que Jeffrey était modeste. Je vous ai tous trouvé quand même très modeste sur tout ce que vous faites, votre job en général.
Oui, après, je pense que y a des gens qui peuvent prendre la grosse tête. Enfin, malheureusement, ça arrive. Hein. Mais je pense que nos métiers, si jamais on les prend au sens premier, c'est des métiers qui rendent humbles. Moi, je ne m'attendais pas à parler de ça aujourd'hui à une émission sur Noël, mais j'ai eu un choc il y a quelques années, la première fois que j'ai fait un jambon. Et en fait, je me suis dit, le geste que je suis en train de faire, c'est le geste que mon arrière-grand-père a fait en 1930, que mon grand-père a fait dans les années 50-60, que mon père a fait dans les années 80-90, et que moi, je me retrouve à faire dans les années 2010. Et en fait, se dire, quelque part, on fait que du jambon. Enfin, voilà, faut pas non plus. On va pas sauver des vies, on n'est pas médecin. On essaye de procurer du plaisir aux gens, mais faut pas non plus se gonfler la tête trop rapidement. Et en plus de ça, moi, j'ai pris un sacré recul en me disant, alors certes, aujourd'hui, il y a Instagram, il y a tout ça, mais en fait, le geste est le même, l'amour pour le produit est le même. Et mine de rien, la technique, c'est une chose, mais ça fait pas tout, quoi. Le produit et la matière première font 50% du travail.
C'est quelque chose qui te parle, ça, Emmanuel, ce type de propos?
Alors nous, au-delà du produit et de la matière première, on a les éléments, en fait. Et à l'arrière d'un bateau, on est juste rien. Et en tant que patron de pêche, on est non plus juste rien sans nos matelots qui sont derrière. Donc une fois que tu as pris tout ça en compte, tu te rends compte que sans tout ça, toi, tu n'existerais pas. Tu ne pourrais pas monter ta marchandise dans ton camion et tu ne pourrais pas la présenter au chef. Donc en fait, on est un petit rouage et on nous le rappelle tous les jours, en fait.
Ce que la nature nous rappelle tous les jours, ce sera peut-être le mot de la fin, Mina. L'émission touche à sa fin.
Voilà, c'est ça. L'émission touche déjà à sa fin.
On a bien mangé, on a bien bu.
Merci à tous pour
vous
ce
écouter.
Fabuleux déjeuner de Noël.
Merveilleux.
Merci à Mathilde Giraud, Denis Lega, Élise, Laura de Grande Contrôle pour votre confiance. Venez boire un coup, il reste plein de trucs. Et merci à Pierre-Alexandre Perrin derrière la console. On t'embrasse.
Joyeux Noël.
Chaud.
Chaud.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.